qui aurait une influence décisive sur la solution de ce problème. L'idée que l'être humain, par un sentiment immédiat orienté dans cette direction depuis le début, serait censé avoir connaissance qu'il est en corrélation avec le monde environnant paraît si étrange, s'insère si mal dans la trame de notre psychologie, qu'on peut à bon droit être tenté de proposer une dérivation psychanalytique, c'est-à-dire génétique, d'un tel sentiment. Nous disposons alors du cheminement de pensée suivant. Normalement, rien n'est pour nous plus assuré que le sentiment de notre soi, de notre moi propre. Ce moi nous apparaît autonome, unitaire, bien démarqué de tout le reste. Que cette apparence soit un leurre, qu'au contraire le moi se continue vers l'intérieur, sans frontières tranchées, dans un être animique, inconscient que nous qualifions de ça, auquel il sert en quelque sorte de façade, c'est ce que nous a enseigné la première, la recherche psychanalytique, qui nous est encore redevable de nombreuses informations sur le rapport du moi au ça. Mais vers l'extérieur du moi, le moi semble affirmer des lignes de frontières claires et tranchées. Dans un seul état, exceptionnel il est vrai mais qu'on ne peut condamner comme morbide, il en va autrement. Au comble de l'état amoureux, la frontière entre moi et objet menace de s'effacer. À l'encontre de tous les témoignages des sens, l'amoureux affirme que moi et toi ne font qu'un et il est prêt à se comporter comme s'il en était ainsi. Ce qui peut être provisoirement supprimé par une fonction physiologique doit naturellement aussi pouvoir être perturbé par des processus morbides. La pathologie nous apprend à connaître un grand nombre d'états dans lesquels la délimitation du moi avec le monde extérieur devient incertaine, ou dans lesquels les frontières sont tracées d'une manière vraiment inexacte. Des cas où des parties du corps propre, voire des éléments de la vie d'âme propre, perception, pensée, sentiment, apparaissent comme étrangers, et n'appartenant pas au moi. D'autres cas où l'on impute au monde extérieur ce qui manifestement a pris naissance dans le moi et devrait être reconnu par lui. Ainsi donc, le sentiment du moi est lui-même soumis à des perturbations et les frontières du moi ne sont pas stables. Poursuivons la réflexion. Ce sentiment du moi de l'adulte ne peut avoir été tel depuis le début. Il faut qu'il soit passé par un développement qui, cela se conçoit, ne se laisse pas mettre en évidence, mais se laisse construire avec passablement de vraisemblance. Le nourrisson ne fait pas encore le départ entre son moi et un monde extérieur comme source des sensations affluant sur lui. Il apprend à le faire peu à peu, en vertu d'incitations diverses. Ce qui lui fait nécessairement la plus forte impression, c'est qu'un certain nombre de sources d'excitation dans lesquelles il reconnaîtra ultérieurement ses organes du corps peuvent à tout moment lui adresser des sensations, alors que d'autres se soustraient à lui par moment, parmi elles ce qui est le plus désiré, le sein maternel, et ne sont ramenés à lui que par des cris d'appel à l'aide. Par là s'oppose au moi pour la première fois un objet, en tant que quelque chose qui se trouve au dehors, qui n'est poussé dans le champ phénoménal que par une action particulière. Ce qui donne une nouvelle impulsion au détachement du moi d'avec la masse des sensations, donc à la reconnaissance d'un dehors, d'un monde extérieur, ce sont les fréquentes, multiples et inévitables sensations de douleur et de déplaisir que le principe de plaisir à la domination sans borne commande de supprimer et d'éviter. Une tendance apparaît, celle de mettre à part du moi tout ce qui peut devenir source d'un tel déplaisir, de le jeter à l'extérieur, de former un moi plaisir pur auquel s'oppose un dehors étranger et menaçant. Les frontières de ce moi plaisir primitif ne peuvent échapper à la rectification par l'expérience. Maintes choses qu'on ne voudrait pas abandonner comme étant dispensatrice de plaisir n'est pourtant pas moi, est objet. Et maint tourment qu'on veut jeter au dehors se révèle pourtant comme étant inséparable du moi, comme de provenance interne. On fait l'apprentissage d'un procédé consistant par une orientation intentionnelle de l'activité sensorielle et par une action musculaire appropriée à pouvoir différencier ce qui est intérieur, ce qui appartient au moi, et ce qui est extérieur, ce qui est issu d'un monde extérieur, et on fait par là le premier pas vers l'instauration du principe de réalité qui doit dominer le développement ultérieur. Cette différenciation sert naturellement la visée pratique de se défendre des sensations de déplaisir éprouvées et de celles qui menacent. Que le moi, pour se défendre contre certaines excitations de déplaisir provenant de son intérieur, ne mettent pas en application d'autres méthodes que celles dont il se sert contre le déplaisir venu de l'extérieur, voilà qui devient ensuite le point de départ de troubles morbides significatifs. C'est donc de cette manière